Bonjour, bienvenue sur Radio Dialogue. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Baudin pour un deuxième panorama. Je rappelle que Frédéric Baudin est écrivain et conférencier et notamment auteur des livres « D'un jardin à l'autre » et « De Dieu est-il vert ». Je vous lis le début du texte de couverture de son livre « Dieu est-il vert » parce qu'il résume parfaitement le sujet dont je voulais parler dans cette émission. Les chrétiens auraient dû être parmi les premiers à s'exprimer sur l'état du jardin que Dieu a confié aux hommes. Malheureusement, ils sont restés souvent muets pour faire comme tout le monde. Au mieux, ils ont oublié que la Bible donnait un point de vue sur cette question. Ou pire, ils se sont servis d'elle pour justifier leur pratique. Frédéric, j'aimerais que nous parlions un peu de la position chrétienne sur la démesure de notre monde. En ce qui concerne l'environnement et peut-être aussi autre chose.
Oui, alors c'est un vrai problème effectivement pour les questions de, notamment d'environnement, parce que nous sommes dans un système aujourd'hui où à partir, on a déjà eu l'occasion de s'en expliquer sur cette antenne, mais à partir des verbes forts par exemple de la Genèse, hein, sur dominer et soumettre, qu'on a d'ailleurs mal interprété, parce que la domination c'est plutôt de prendre soin, d'ailleurs c'est l'exemple qui est donné le plus souvent, prendre soin de la création de Dieu par exemple, et soumettre c'est plutôt dans le sens d'une bonne gestion de cette création, donc on est comme mandaté par Dieu pour prendre soin de ce qu'il a fait et de ce monde sur lequel il nous a placés. Et justement pour régner d'une certaine manière, mais pas de la mauvaise manière. Et malheureusement, entraîné, peut-être parce que les théologiens appellent la faute, hein, la chute, la rupture de l'alliance, on pourrait dire, avec Dieu, eh bien tout cela a des conséquences très concrètes sur notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation les uns avec les autres et notre relation avec ce monde. Au fond, les relations sont perturbées. Et dans cette perturbation des relations, nous avons notamment un problème qui est celui de ne plus pouvoir ou de ne plus savoir respecter les limites. Et nous fonçons donc, en quelque sorte, hein, vers parfois la démesure. L'apôtre Paul a des mots très forts, hein, pour qualifier cette démesure. Il parle par exemple de la cupidité, qui est un amour démesuré de l'argent, on pourrait le traduire de cette façon-là, ou des richesses, le désir de s'enrichir plus que nécessaire. Eh bien, cette démesure, par exemple, de la cupidité, de l'amour des richesses, il l'appelle une idolâtrie. C'est comme si on rendait un autre culte qu'à Dieu, un culte à l'argent. Et effectivement, c'est le veau d'or, si vous voulez.
Hein, j'allais le dire, voilà, ça évoquait quelque chose pour moi.
On n'est pas loin, hein, de l'idée du veau d'or, donc d'adorer finalement une chose plutôt que Dieu, et ayant renversé les priorités, on le voit très bien par exemple dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au début de sa lettre, lorsqu'il parle de ce Dieu qui se révèle. Alors, on ne connaît pas tout de Dieu dans la nature, à partir de cette révélation, disons, générale qu'on peut avoir de Dieu dans la nature. Mais on a quand même une idée de ce qu'est Dieu et de qui est Dieu à travers ce qu'il a créé, comme on voit à partir de l'œuvre d'un peintre, d'un musicien, lorsqu'on a l'habitude un petit peu de ses œuvres, si on entend une nouvelle œuvre de ce musicien, on le reconnaît, hein, ou si on voit une nouvelle toile d'un peintre qu'on a déjà apprécié, eh bien on reconnaît sa toile. Mais c'est un petit peu la même chose, on connaît quelque chose de Dieu à partir de la contemplation tout simplement de la nature, mais c'est une révélation partielle, une révélation un petit peu confuse si vous voulez. Eh bien, malgré tout, l'apôtre Paul dit que cette révélation, toute partielle qu'elle soit, est suffisante pour qu'on puisse reconnaître dans Dieu, dans la nature, qu'il y a un auteur et que cet auteur est Dieu et qu'on doive même l'honorer en tant que tel. Et si on ne le fait pas, eh bien, on renverse tout. Et l'apôtre Paul poursuit sa lettre en disant, ben voilà, au lieu de dominer sur les poissons, les animaux qui rampent sur la terre, les oiseaux qui volent dans le ciel, alors c'est les catégories qui sont utilisées dans le livre de la Genèse, hein, vous dominerez sur les poissons, les oiseaux, etc. Vous avez renversé les choses, vous en êtes réduit à adorer ces créatures. En d'autres termes, au lieu de rendre un culte au Créateur, vous rendez un culte à la créature. Et l'apôtre Paul prend ensuite l'exemple même des statues qui sont faites à l'image de l'homme. Et là, on franchit un pas, c'est-à-dire que si on met l'homme comme une fin en soi, ou la nature, ou les oiseaux, les poissons, ou que sais-je, hein, n'importe quelle chose à la place de Dieu, et si on en fait une fin en soi, si on se prosterne, pour prendre des mots un peu religieux, devant la création au lieu du Créateur, eh bien, ce renversement des valeurs a des implications très pratiques. Et je pense qu'une des, un des problèmes que nous connaissons de rupture des relations tant avec Dieu qu'avec la nature, par exemple, vient de ce renversement précisément des valeurs. Et c'est à partir de là que nous sombrons dans ce que j'appelle la démesure. C'est l'hubris des Grecs, hein, la démesure. Là aussi, il y aurait beaucoup à penser à partir des mythes grecs qui abordent cette question. Mais ce problème de la démesure, eh bien, c'est celui qui nous touche de façon très concrète, puisque nous sommes là à réfléchir dans la question et sur la question de l'environnement, dans le domaine de l'environnement. Eh bien, le problème de la démesure se traduit par une domination excessive de la nature. Et cette domination excessive, elle a pour mobile, le plus souvent, malheureusement, de vouloir s'enrichir plus qu'il ne faut, et beaucoup plus vite, je dirais d'une certaine manière, qu'il ne faut. Il y a cette notion du profit immédiat, si vous voulez. Et de là viennent un nombre considérable de problèmes que nous connaissons aujourd'hui, que nous appelons problèmes de l'environnement dans son ensemble.
Pour reprendre ce que vous dites, moi je suis sidérée par tous ces hommes politiques ou industriels qui mettent en péril leur réputation, leur travail, pour avoir des pots de vin, pour avoir un peu plus d'argent, pour avoir des passe-droits. C'est hallucinant, là, il y en a encore aux États-Unis qui viennent d'être... Je ne comprends pas comment on peut en arriver là quand on a des positions pareilles.
C'est malheureusement...
Bon, c'est le dieu argent, hein.
Mais sans aller jusqu'à la corruption que vous dénoncez, et à juste titre, dans ce domaine, sans aller même jusque-là, je dirais même que dans l'argent, entre guillemets, honnêtement gagné, il peut devenir malhonnête par la démesure. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de temps. Je reprends des phrases toutes simples du Christ ou de l'apôtre Paul, contentez-vous de ce que vous avez. Si vous avez la nourriture et le vêtement, dit le Christ à ses disciples, cela vous suffira. Alors voilà une autre façon d'envisager l'existence. Alors nous savons que c'est une façon de dire aussi que Dieu peut pourvoir à nos besoins élémentaires et qu'il est, vous connaissez bien la phrase, hein, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire au fond les choses les plus importantes, encore une fois, de remettre la priorité ou en ordre nos priorités et en particulier celle de Dieu dans nos vies. Et je pense qu'à partir de là, ce qu'on pourrait presque appeler une véritable conversion, hein, un retour entier à Dieu, de le reconnaître comme ce qu'il est, le Seigneur. Lorsqu'on nous disons Seigneur, c'est que nous reconnaissons qu'il règne. Et je crois que tout chrétien devrait normalement pouvoir appeler Dieu Seigneur, c'est-à-dire reconnaître la souveraineté de ce Dieu sur nos vies propres, sur notre vie individuelle, si vous voulez, mais aussi comme le souverain de notre terre, et donc respecter ce qu'il a créé, respecter les êtres qu'il a créés, simplement parce que nous le respectons en premier lieu. Je crois qu'il y a un ordre là dans tout cela qui nous permet de remettre en quelque sorte les choses en place.
Et si les 2 milliards de chrétiens pouvez entendre ce que vous dites et le mettre en pratique, alors, la vie serait drôlement belle après.
Ah, certainement, j'y pense souvent, mais vous savez, nous sommes tous là, je dirais, concernés, d'une manière ou d'une autre, avec nos forces et nos faiblesses et nos contradictions. L'idéal, finalement, nous le connaissons bien. La loi de Dieu, finalement, l'apôtre Paul, Jésus-Christ lui-même, la résume en ces deux termes, en ces deux phrases. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Voilà le premier commandement, le plus important. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est évident que si on aime son prochain comme soi-même, on ne va pas lui voler ce qui lui appartient, ni son épouse ou son époux, selon les cas, ni lui faire du tort de quelque sorte que ce soit, ni bien sûr le tuer. Vous voyez, tous les commandements
ou
dépendent.
Ou le mépriser.
Ou le mépriser, simplement.
Ça, c'est
il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un.
Tout à fait.
Parfois, une phrase,
c'est plus subtil.
Une phrase malveillante peut faire beaucoup de mal. Ah. Beaucoup de mal. C'est parfois une épée que l'on manie. Alors voilà, si on aime notre prochain, mais on sait qu'on bute contre la contradiction majeure de nos vies, qui est notre incapacité, je dirais radicale, à aimer Dieu et notre prochain en tout temps et en toutes circonstances. C'est ça le péché, finalement. Des fois, on se demande, c'est quoi la définition? Eh bien, c'est notre incapacité radicale de pouvoir aimer en tout temps, en toutes circonstances. Alors, on arrive à faire deux, trois petites choses, mais finalement, tellement incomplètes, tellement imparfaites, alors que Dieu est amour. On ne le
quand,
lit pas
quand
assez.
Quand on lit la liste des sept péchés capitaux, si on réfléchit bien, on se dit, mais il n'y en a qu'un. C'est l'amour, c'est le manque d'amour.
En tout cas,
il revient de tout
ça. C'est la racine.
L'orgueil, tout revient au manque d'amour.
De tout mal. Ouais. Et on trouve cette phrase, tu aimeras Dieu, ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Ce sont des phrases qui apparaissent dès l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, pour les commandements, mais aussi dans le livre. Alors, un livre qu'on ne lit pas beaucoup, du Lévitique. C'est le troisième livre de la Bible, c'est un livre intéressant. Alors je sais bien que ce n'est pas forcément le livre de chevet de tous les chrétiens, mais c'est dommage.
Non, ça ne doit pas être facile à lire. Hein.
Alors ce n'est pas toujours facile à lire.
Vous y êtes essayé un peu ?
Oh oui, et je dirais qu'on a tort de ne pas le lire, parce qu'il y a dans ce livre, bien sûr, des lois sur les sacrifices, tout ça nous paraît très très lointain, encore que Jésus lui-même se présente, ou il est présenté en tout cas comme l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Eh bien, on est là au cœur de la notion de sacrifice, hein, de cet agneau offert pour que les fautes soient pardonnées, couvertes. Alors pour revenir au Lévitique, il y a toutes sortes de lois, notamment sociales, qui régissent un petit peu les liens, les rapports, et je parlais tout à l'heure des relations les uns avec les autres ou avec la nature. Et dans ces lois sociales, c'est une nouveauté radicale dans le Proche-Orient ancien. On s'occupe du plus faible. On s'occupe de la veuve, de l'orphelin, de celui qui n'a pas de ressources, du serviteur ou de l'homme ou femme réduit à l'état de serviteur suite à un échec, à une sorte de faillite personnelle. Et le texte dit « tu ne domineras pas ». Voilà, on retrouve notre verbe « dominer ».« Tu ne domineras pas sur ton frère de façon sous-entendue tyrannique, abusive ». Et au contraire, ce serviteur ou cet esclave, entre guillemets, ce n'était pas tout à fait cette notion d'esclavage, mais en tout cas d'un homme ou d'une femme réduit à l'état de serviteur contre son gré, eh bien, il pouvait recouvrer la liberté tous les 7 ans, hein, lors de l'année du jubilé. Ou alors être racheté par un membre de sa famille, c'est-à-dire que c'est une domination limitée. Et c'est ça qui est important. Je crois que dans la vie avec Dieu, eh bien, il y a un respect d'un certain nombre de limites. Alors c'est pas toujours facile hein, de trouver des limites. Les gens qui ont travaillé dans la recherche scientifique, je crois que c'était votre cas, ça a été aussi mon cas dans le passé, on sait très bien que lorsqu'on fait de la recherche, on est toujours là en train de tâtonner hein, avec les limites. Quelles limites faut-il parfois franchir ou ne pas franchir ?
Oui. Puis la limite s'éloigne aussi. Hein.
Et voilà, donc il y a toute une réflexion, mais pour le moins une réflexion éthique. Et pour nous chrétiens, une réflexion éthique basée sur eh bien, cette révélation biblique qui nous donne quand même des indications, au moins dans les grandes lignes, je dirais. Hein. Alors, Dieu a quelque part esquissé les limites pour qu'on en tienne compte. Alors je pense que c'est vrai pour notre vie voilà, très pratique, hein, éventuellement de chercheur, mais aussi de consommateur, d'industriel, dans quelques métiers que ce soit. Hein, je pense que reposer les bons principes en tant que chrétien, je la parle pour des chrétiens qui se déclarent chrétiens et qui veulent essayer de mettre en pratique au moins autant qu'il est possible leur foi, eh bien, je crois qu'il y a toute une question à se poser sur les limites de notre activité, de notre rapport au monde, de notre rapport à l'argent, de notre rapport aux autres et dans les autres. Je pense à tous ceux qui subissent les difficultés de la vie, hein, ceux qui sont affaiblis d'une manière ou d'une autre, sachant que nous-mêmes, on peut aussi se trouver dans cette situation de faiblesse radicale. Alors, dans nos pays européens, en France, on a quand même des protections, même si elles ne sont pas parfaites, mais dans bien des pays du monde, les gens dans la faiblesse sont totalement démunis. C'était le cas de la société du temps de Jésus-Christ et avant. Et donc, il fallait là apporter des remèdes bien concrets. Alors, par rapport à l'environnement, je reviens quand même à notre thème qui nous rassemble, eh bien, je pense qu'on peut se nourrir de toutes ces leçons, même celle du livre du Lévitique, que l'on néglige parfois et trop souvent, malheureusement.
Je vais vous poser une question, là. Vous demandez le site que vous avez. Vous avez créé une association qui s'appelle CEM, voilà. Culture, Environnement, Média. Oui, vous donnez le site.
Alors, oui, le site, mais juste avant de donner l'adresse du site, simplement pour dire que cette association, ben, précisément, dans
oui,
le sujet
oui,
qui
oui,
nous
non,
préoccupe,
mais c'est vrai, il faut le préciser.
Essaye de promouvoir les valeurs chrétiennes, ce qui nous inspire comme valeurs, je dirais, positives, hein, du christianisme ou issues de notre foi chrétienne, pour justement ces domaines, en particulier de la culture, de l'environnement et des médias. Bon, il se trouve que c'est en tout cas au départ très lié à ma propre personne, parce que j'ai créé cette association dans des domaines dans lesquels je travaillais, tout simplement. Dans la culture, parce que je donne des conférences sur ces sujets de foi et culture, de l'environnement, parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce sens, et c'était mon premier métier, à vrai dire, et les médias, ben, tout simplement parce que je continue de m'exprimer dans les médias, c'est le cas aujourd'hui, et sur, dans les journaux, dans toutes sortes de moyens, des livres. Alors vous pouvez trouver toutes sortes de renseignements sur culture, environnement, médias, sur le site donc, de cette association, qui est CEM France, C-E-M France, tout attaché, cemfrance.org. Donc c'est voilà, assez simple, il y a là toutes sortes de ressources accessibles sur des sujets assez différents qui touchent aux questions de la culture et de la foi.
Oui, il y a quelques conférences aussi, puis quelques vidéos qui vous permettent d'écouter en direct.
Il y a des émissions de radio qui ont été enregistrées ici et là, mais aussi des articles, des conférences.
Alors il y a aussi deux livres. Un qui a un très joli titre, « Dieu est-il vert ?» Moi, ça me convient tout à fait. « Écologie et foi chrétienne », qui est aux éditions Croire Pocket. Et puis un autre qui est plus important, qui est « D'un jardin à l'autre », qui est aussi que vous pouvez trouver, semble-t-il, à la Maison de la Bible.
Ici à Marseille, oui.
À Marseille, ou le CLC Livre, qui est près de la gare Saint-Charles, ou à la librairie Saint-Paul. Mais je précise quand même que Frédéric Baudin habite Aix et que vous pouvez aussi trouver ses livres au CEM à Aix.
À l'adresse et même sur Internet. Sur le site Internet, il y a des possibilités, il y a des bons de commande, il y a des solutions là, pour se procurer les livres à partir du site. En tout cas.
Voilà, je crois que c'était très important de rappeler ces livres parce que ça complétera ce que nous avons dit aujourd'hui et que nous avons dit aussi dans une émission ultérieure. Alors, on reprend maintenant notre approche. Je voulais vous parler de ces associations qui s'appellent New Age, qui se retournent vers la nature, il n'y a plus que la nature qui existe, et qui, vous m'avez dit quand on en a parlé, ça s'est éloigné quand même beaucoup de la foi chrétienne, de la loi chrétienne.
Oui, alors en fait, bon, c'est plus que des associations, ça peut être des associations.
C'est un mouvement, c'est un mouvement.
C'est d'ailleurs un mouvement assez diffus, assez confus, qui rassemble toutes sortes de mouvements écologistes. C'est, je dirais, presque une tendance hein, au sein de ces mouvements écologistes qui cherchent à introduire une dimension spirituelle, religieuse, et jusque-là, on n'a rien, bien évidemment, contre cette dimension, bien au contraire. Mais bon, le New Age, le Nouvel Âge, et d'autres mouvements, parce que c'est pas seulement, c'est difficile à définir, hein, tous ces mouvements.
Oui, c'est toute une mouvance.
En tout cas, cette mouvance s'inspire très nettement de la contre-culture hippie des années 60-70, avec le retour à la nature, et ils ont assimilé, ils ont synthétisé toutes sortes de traditions à la fois philosophiques et religieuses, et jusqu'à même l'animisme, donc le fait d'adorer, de rendre un culte à des forces de la nature, par exemple. Hein. Et on le voit même avec le culte de Gaïa. Hein. Gaïa, c'est le nom grec pour la Terre.
Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de magasins qui s'appellent voilà. Gaïa. Ah, ou
bah alors, ça s'inspire tout à fait de cette idée-là,
fait, oui. Hein,
que la Terre, c'est la déesse mère, si vous voulez. Et c'est Gaïa, hein, la déesse, finalement, qu'il faut quelque part adorer. Alors, toutes ces traditions philosophiques, religieuses, mêlées, on s'aperçoit en les étudiant qu'elles sont quand même toutes inspirées de ce qu'on pourrait appeler le panthéisme, c'est-à-dire l'idée que Dieu se confond avec toute chose, avec tous les êtres même, ou quelques composantes que ce soit de notre terre, de notre univers.
Dieu
est en tout, si vous voulez. Hein.
Ouais.
Et il irrigue par une sorte d'intelligence, conscience universelle, un peu diffuse, impersonnelle, qui irrigue l'univers. Et voilà, c'est un petit peu cette idée-là.
C'est séduisant quand même.
Ah, c'est très séduisant, parce que effectivement, on a cette impression que dans toute vie manifestée, eh bien Dieu est là directement présent. Alors la théologie chrétienne quand même prend des distances, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que Dieu se distingue radicalement de la création. Il est le créateur. Ça ne veut pas dire qu'il en est absent. On dit que Dieu, en théologie chrétienne, gouverne et soutient le monde. Alors de quelle manière ? ne me le demandez pas, parce que là, on est dans l'ordre du mystère, hein, de choses que je ne comprends pas.
Je ne me serais pas permis de vous le demander.
Voilà, et bon, vous savez que les auteurs bibliques disent, par exemple, dans les psaumes et dans d'autres textes, les pensées de Dieu nous dépassent. Hein, et voilà, qui sommes-nous, simples mortels, pour essayer de contester avec Dieu ? Il y a des choses que l'on ne comprend pas, il faut bien l'admettre. Et je dirais, ce n'est pas pour fuir le problème, par exemple, de la question du mal ou de la théodicée, d'articuler justement un peu toute cette question du Dieu souverain et du mal, etc. Mais simplement, en tant qu'être humain, si on, même on ne réfléchit pas dans une dimension religieuse, sans Dieu, disons, on n'a pas davantage de réponse, d'une certaine manière.
Tout à fait.
Face à la difficulté du mal, par exemple, on est tous confrontés, quelque part, au mystère. Alors, en tant que chrétien, on ne va pas répondre nécessairement à la question, mais on a tout de même une réponse, qui est ce Dieu qui s'est donné dans son amour en Jésus-Christ. C'est au moins une réponse, c'est l'amorce d'une réponse. Ça veut dire au moins qu'il ne se compromet pas avec le mal, hein, puisqu'il cherche au contraire à nous en débarrasser en quelque sorte. Hein. En Jésus-Christ, c'est quand même bien la victoire sur le mal qui est affirmée. Et donc, de cette manière, Dieu ne peut pas se contredire. Il combat le mal au point de se donner lui-même, de donner sa vie. Et la victoire sur la mort, la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, nous amène justement à prendre conscience d'une victoire, d'un indice de la victoire de Dieu sur le mal. Et c'est ce vers quoi nous nous acheminons. Mais je me suis un petit peu écarté de la question que vous m'avez posée, mais pas trop finalement.
Non, pas tout.
Parce que, voilà, nous,
ça,
sommes,
c'est clair, mutuellement,
nous sommes en plein dedans, hein, au contraire. Ah. Alors, tous ces mouvements du Nouvel Âge réfléchissent dans, voilà, d'une autre manière. Nous, en tant que chrétiens, et moi je respecte hein, ceux qui pensent autrement, c'est leur droit le plus strict, hein, et cela relève de leur entière liberté, mais puisque nous nous sommes là rencontrés en tant que chrétiens, les chrétiens croient en un Dieu créateur, ça n'est pas innocent. C'est-à-dire que l'univers a un commencement. Pour beaucoup de religions orientales, où nous sommes dans l'ordre du cycle, du renouvellement perpétuel, etc., ou éventuellement du cycle dont il faut s'échapper, hein, là aussi il y aurait beaucoup à dire sur les religions orientales dans ce domaine, mais je ne vais pas m'y aventurer maintenant, nous croyons en un Dieu créateur et cela oriente notre façon de voir le monde et de vivre dans ce monde. Nous ne voyons pas le monde de la même manière qu'un hindou ou qu'un bouddhiste. Ou, voilà, chacun, bien sûr, a le droit de voir le monde comme il veut, mais pour nous autres, chrétiens, nous le voyons de cette façon-là, d'un Dieu créateur, et j'ai dit tout à l'heure, souverain, celui que nous appelons Seigneur, et donc que nous reconnaissons quelque part comme maître, comme bon maître, puisqu'il a lui-même fait le pas de venir, de s'incarner et même de mourir pour nous. On ne peut pas espérer meilleur maître de ce point de vue-là. Et c'est dans ce sens que je respecte la création, donc l'environnement, pour prendre le mot actuel, et que je veux agir hein, dans la protection de l'environnement, comme je l'ai dit dans d'autres émissions, pour aimer Dieu et pour aimer mon prochain. C'est une manière de relier ce que nous avons dit tout au commencement, de cette loi fondamentale hein, de l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Bien, les choses se tiennent très bien, si vous voulez, à partir de ce regard. Alors ce que je crains profondément, à partir de ces mouvements dits du Nouvel Âge et d'autres, on a développé aussi des rassemblements interreligieux, notamment depuis le fameux rassemblement en marge d'Assise. Hein, il y a eu toutes sortes de rassemblements interreligieux sur le thème de la protection de l'environnement. Alors ça a commencé en 86 à Assise, mais ça avait pris une certaine ampleur au moment du rassemblement de Katmandou, c'était en l'an 2000. Il y a eu en France aussi des rassemblements du même type en 2001 à Solan, dans le Gard, dans le monastère orthodoxe de Solan. Voilà, et tout cela a un côté fort sympathique, hein, c'est-à-dire au fond de réfléchir, venant de traditions différentes religieuses, sur la question de l'environnement et de notre rôle, y compris dans sa dimension spirituelle. Et tout cela, encore une fois, me semble très bien lorsqu'on est encore dans l'ordre du partage, hein, de l'expression de nos traditions et de ce qu'on peut apporter de bon dans ce sens. Ce que je crains, en revanche, c'est que l'écologisme devienne une sorte d'idéologie religieuse de portée universelle et au fond que ça devienne la prochaine grande utopie universelle. Vous savez, on n'est jamais à l'abri, hein, on veut toujours pondre des systèmes Quel qu'il soit d'ailleurs, hein, on a eu les sociétés communistes, on a eu des idéologies capitalistes, on a eu des idéologies de toutes sortes, et on voudrait enfermer l'humanité dans ces idéologies. Et je crains, moi, une sorte de dictature de l'écologie. D'ailleurs, il y a déjà parmi les écologistes des fanatiques, hein, des gens qui sont plus écologistes que tous les autres et qui voudraient imposer un nouvel ordre écologique. Et je ne pense pas qu'on fasse bonne route dans ce sens. Je pense que l'écologie doit rester au service de l'humanité, mais que l'humanité n'est pas au service de l'écologie. Là encore, on est dans le renversement des valeurs.
Et je suis pas sûre, moi, je vous suis pas là sur cette idée, parce que je pense que si on laisse l'humanité maître de l'écologie sans aucun contrôle, on va dans le mur et on y va très vite. C'est pas ça, j'avais pas compris votre...
Parce que on garde quand même en tête tout ce que j'ai dit auparavant sur l'idée de dominer, soumettre dans le bon sens du terme, hein, dans le respect avec Dieu, dans les priorités qui sont bien posées et reposées. Et je pense que là, on peut se mettre à l'abri justement des excès, hein, et qu'il faut dénoncer. Là, je vous rejoins au contraire tout à fait. Par contre, je ne pense pas que l'écologie, pour le dire en d'autres mots, soit la panacée, si vous voulez, la solution universelle à tous nos problèmes. Je pense que le problème, il vient fondamentalement... Alors Jésus l'exprime, tiens d'ailleurs, d'une façon très, très naturelle, si je puis dire. Il dit c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, etc. La rupture de relation avec Dieu ou avec nos semblables ou avec la nature. Et je pense que c'est là que se situe vraiment le problème. Plus que, bon, et toutes les conséquences que nous en subissons, eh bien, viennent toujours un peu de cette même source, malheureusement. Et c'est ce cœur-là qu'il faut changer. Et je pense toujours à Blaise Pascal, réception en quelque sorte de la grâce, et où il exprime sa foi et sa joie débordante d'un cœur changé.
Je trouve toujours que c'est dommage qu'on fasse étudier Pascal à un âge où ça n'intéresse absolument pas. C'est plus tard qu'il faut le lire. Et je crois que le fait de l'avoir lu, d'avoir travaillé dessus, d'avoir eu des comptes rendus, des rédactions, ça lève toute envie, toute curiosité intellectuelle pour l'œuvre de Pascal qui est magnifique.
Alors peut-être on peut revenir juste sur une déclaration du pape Jean-Paul II. C'était Jean-Paul II qui s'était exprimé sur ces questions-là.
2002, hein,
alors c'était dans une lettre encyclique, effectivement, au tournant du millénaire. Et voici ce qu'écrit Jean-Paul II, je le cite et le lis puisque j'ai son texte sous les yeux. « L'homme, saisi par le désir d'avoir et de jouir plus que par celui d'être et de croître, consomme d'une manière excessive et désordonnée les ressources de la terre » et sa vie même. À l'origine de la destruction insensée du milieu naturel, il y a une erreur anthropologique malheureusement répandue à notre époque. L'homme croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre en la soumettant sans mesure à sa volonté. Là, on rejoint ce que nous avons dit.
Il reprend ce terme.
Comme si elle n'avait pas une forme et une destination antérieure que Dieu lui a donnée et que l'homme peut développer mais qu'il ne doit pas trahir. Et voilà la phrase peut-être qu'il nous faudrait garder en conclusion. Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. Je pense que tout est dit là, avec une économie de mots que j'admire d'ailleurs.
Vous nous relisez cette dernière phrase ?
L'homme se substitue à Dieu. Voilà, c'est le renversement dont je parlais tout à l'heure. Hein. Et il finit par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. Voilà une phrase dont il faut se souvenir. Hein. Il y a bien d'autres textes, d'autres théologiens. J'aurais pu citer au moins un théologien protestant. Je pense en particulier au théologien Henri Blocher. Hein. Si l'homme obéissait à son Dieu, il serait le moyen d'une bénédiction pour la terre. Mais dans son avidité insatiable, dans son mépris des équilibres créationnels, dans son égoïsme à courte vue, il la pollue, il la détruit, il fait d'un jardin le désert. Alors voilà encore le lien avec tout ce que nous avons dit auparavant. Et encore une fois, le remède, aimer Dieu et son prochain, c'est une manière de prendre soin aussi de notre environnement. Ou prendre soin de notre environnement, c'est une manière d'aimer Dieu et notre prochain.
Merci pour cette belle conclusion. Merci Frédéric Baudin d'être venu nous travailler avec nous et à bientôt sur Radio Dialogue.
Merci.